Nous sommes à la fin du 19e siècle, à Vienne, donc on voit que Mozart est transformé, a été mythifié, c'est une sorte de légende superficielle. Ça va durer très longtemps, vous savez qu'il a fallu très longtemps avant que la dimension extraordinaire de Mozart nous apparaisse vraiment dans toute son ampleur. Et peut-être que même nous n'en avons pas encore pris la mesure. Donc il y a là tout un travail souterrain qui fait que les opéras de Mozart pris en bloc, enfin, je veux dire les derniers, en tout cas les grands derniers, Idoménée jusqu'à la Clémence de Titus, la Flûte enchantée, etc., Così fan tutte. Eh bien, Mozart traite absolument tous les sujets qui auraient dû passionner, en effet, la psychanalyse. Alors, on peut dire que peut-être la psychanalyse avait besoin d'une certaine surdité, parce que Freud n'écoutait pas la musique. C'était d'ailleurs le cas de Lacan en France, c'est pas la musique ne les travaille pas, ne les habite pas, pour découvrir quelque chose dans le discours humain qui était, en effet, d'un autre ordre. Ils avaient peut-être besoin de cette surdité-là d'une oreille pour entendre de l'autre. Mais enfin, ça pose quand même un problème énorme.
Alors Mozart fascine aussi parce qu'il y a un tel hiatus entre, apparent en tout cas, entre sa vie privée et sa vie de musicien, les œuvres qu'il donne. Il n'est jamais dans la bonne situation. Lorsqu'il est triste et étranglé par l'argent, il compose une œuvre rigolote. Il est religieux et à la fois très paillard.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire, il y a peu d'exemples, je crois, où on est, c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, une telle imbrication entre la vie urgente de chaque jour et la création, parfois en complet décalage par rapport à cette situation, une situation misérable. On ne comprend pas, c'est pour ça que c'est mystérieux, comment Mozart, fin 1789, en 90, alors que Vienne le boude déjà beaucoup, que l'aristocratie a été choqué par Don Giovanni, donc il est en train d'écrire Così fan tutte, qui sera un quasi-échec, hein, n'est-ce pas ? C'est trop compliqué, déjà. Trop de notes, mais non, c'est trop compliqué. Les sentiments sont trop délicats, flottants, contradictoires. Vous voyez, tout doit être simplifié. D'ailleurs, le siècle qui va venir, le 19e, simplifiera à la fois les sentiments, la musique, l'égalisation des voix, etc. Donc c'est trop compliqué. Et on ne comprend pas comment quelqu'un qui en est à demander presque 100 balles, hein, c'est quelques florins à son ami Puchberg, il y a des lettres...
quasiment tous les jours, à certains.
Tout à fait extraordinaire, écrit en même temps, sa femme est malade, il a déménagé, il a pris un loyer moins cher. Comment il écrit Così fan tutte, qui est une sorte de ravissement, d'enchantement permanent. Alors le décalage là est tout à fait impressionnant, parce que au contraire de l'artiste romantique, bien qu'il y ait le Sturm und Drang chez Mozart, vraiment l'annonce de quelque chose de très violent, de révolte, de révolution même, au contraire de l'artiste romantique, n'est-ce pas, sa musique est éclatante de sérénité pratiquement jusqu'à la fin, alors que sa vie est extraordinairement délicate à vivre, voilà, et sa mort, etc. Donc vous voyez, c'est ça qui m'intéresse, c'est cette volonté d'affirmation dans les situations les plus désespérées.
Oh.
de Hostias, du Requiem de Mozart, tel que le compositeur l'a laissé en l'état sur son lit de mort et avant que Soussmayr ne l'achève. Extrait du disque que vient de faire paraître Christophe Spering chez Opus 111. Parlons maintenant peut-être, Philippe Solers, des choses qui ont pu fâcher dans votre ouvrage. Vous avez notamment des mots très durs sur la musique française.
Eh bien, c'est pas moi qui les ai, c'est Mozart.
Oui, mais Mozart, on comprend un ressentiment vis-à-vis de la France, notamment lors de son deuxième voyage.
C'est plus qu'un ressentiment, il y a quelque chose de cet ordre, parce qu'il faut voir la façon dont il a été reçu à 22 ans, en 1778, à Paris, alors que sa mère va mourir à ses côtés, qu'elle est enterrée à Saint-Eustache, on s'en est aperçu très tardivement. Il a fallu attendre 1953, savez-vous, pour qu'on appose une petite plaque. À Saint-Eustache, d'ailleurs où bientôt Jean-Claude Cazadesu va interpréter dans cette église le Requiem de Mozart. J'ai téléphoné à son assistant en disant, mais est-ce que vous rendez compte que ce Requiem de Mozart va être interprété à Saint-Eustache, là où la mère de Mozart a été enterrée, son corps a disparu dans les soubassements de Paris. Elle a cette particularité, de même que son fils, de n'avoir pas de tombe, n'est-ce pas? C'est assez étonnant. Oui, eh bien, vous avez vu comment il est reçu à Paris, la fameuse lettre où Mozart raconte comment la duchesse de Chabot le fait attendre dans le froid alors qu'il lui propose un pianoforte et pourri.
De la rayer quand même toute la musique française.
Mais non, je n'aurais pas... Il pose une question. Il n'aurait pas pu faire représenter un opéra à Paris à cette époque. Il n'aurait pas pu écrire un opéra en français. C'est la question de savoir comment le français comme langue peut ou non être chanté. C'est une grande controverse, vous savez, entamée par Rousseau,
oui, mais là,
les Italiens.
Vous épousez la thèse de Rousseau un peu.
Ah, mais Rousseau, vous savez, c'est pas rien. c'est pas n'importe qui.
Il y a quand même Rameau, il y a quand même.
Alors,
je ne vais pas remonter jusqu'à lui.
Alors, la question de savoir comment le français, en tant que langue, peut se marier avec la musique pour provoquer quelque chose de tout à fait impressionnant. Là, je crois que c'est un vrai problème. Et qu'est-ce que vous voulez, je ne suis pas démenti par les difficultés qu'ont eu les musiciens français, sublimes, pour regarder Debussy. Enfin, c'est vrai que Metterlinck pour Péléas et D'Annunzio pour le Martyr de Saint-Sébastien, vous écoutez, mais les mots... Enfin, petit père, il y a quelque chose qui ne marche pas. La musique est très belle, mais les mots n'arrivent pas à rentrer dedans ou la musique n'arrive pas à rentrer en eux. Je vous assure qu'il y a un problème. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans ce livre sur Mozart, j'ai voulu faire tout le temps un parallèle avec Rimbaud, qui est le poète musical par excellence, à mon avis le plus grand, beaucoup plus important que Mallarmé, qui était saisi par la musique. En effet, comment faire pour que la langue arrive à la musique, reprendre à la musique son bien? Et toute l'époque était wagnérienne, hein, à la fin du 19e, sauf Rimbaud, qui rentre carrément dans la musicalité profonde des mots. Et les destins sont assez comparables, et la force qui anime les deux hommes, ils sont morts exactement un siècle de distance, 1791 Mozart, 1891 Rimbaud, mais Rimbaud est marginal complètement. Il n'est pas reconnu par la communauté poétique française. Et encore aujourd'hui, tout le monde connaît Rimbaud, on fait des portraits de Rimbaud, il y a des photographies, mais vous savez que des jeunes gens se sont amusés à envoyer les illuminations de Rimbaud aux éditeurs, et ça a été refusé partout.
Philippe Solers, vous n'êtes pas tendre non plus, là c'est vous qui parlez, puisque ce n'est plus Mozart, sur l'opéra au XIXe siècle.
Eh bien écoutez, ce sont mes goûts, mais je crois que là encore, il y a quelque chose de philosophique, d'historique, comme leçon à tirer. Je m'appuie sur un texte magnifique de Lampedusa, Tomasi di Lampedusa,
qui
est un petit livre merveilleux sur Shakespeare, et qui attaque frontalement ce qu'il appelle, lui, la décadence de l'opéra en Italie, etc., et la décadence de l'Italie elle-même.
C'est la décadence de l'opéra.
Voilà. Enfin, bref. Et donc, et ça pose un problème encore plus important, parce que c'est la question de savoir comment, à partir du 19e siècle, le chant a été pratiqué. Encore. Et ça, c'est Arnoncourt, vous savez, dont je cite un long passage, qui est très intéressant, parce que c'est l'exhumation de toute cette musique qu'on appelle baroque, entre guillemets, vous savez, Bartoli, cette merveilleuse chanteuse. C'est-à-dire, la façon, encore une fois, comment est-ce qu'on chante une musique qu'on avait jusque-là oubliée, parce qu'on avait égalisé les leçons. On enseignait la musique pour pouvoir chanter ensemble pratiquement d'une même voix. Et en plus, les voix étaient censées venir sur le devant de la scène et s'affronter à cette fosse d'orchestre. Enfin, bon, vous voyez Wagner. Donc, c'est tout à fait autre chose, la musique de Mozart. Et puis, il y a le fond. C'est-à-dire, le fond, c'est la substance féminine dans cette affaire. Vous savez que Beethoven, de façon assez prude, trouvait que Don Giovanni de Mozart n'était pas un sujet convenable, voilà, que la musique avait autre chose à faire.
C'est et que aussi Fidelio, l'opéra le plus ennuyeux.
Oui, moi je trouve Fidelio ennuyeux, mais je pas force un peu le trait. Et puis Wagner avait, comme vous savez, qui admirait Mozart. Enfin, tout le monde admirait Mozart, mais à condition de s'en débarrasser. Donc, avait horreur, évidemment, de Così fan tutte. Bon, parce que les Valkyries et Così fan tutte, vous voyez quand même l'abîme. Donc, il y a un problème.
Thank you.
Moment de grâce absolue, ce terzettino de Così fan tutte entre Fiora di Ligi, Dorabella et Don Alfonso, c'est Celestina Casapietra, Annelise Burmeister, Théo Adam. L'enregistrement réalisé par Omar Sweetner avec la Staatskapelle de Berlin en 1969 et aujourd'hui réédité par Berlin Classics. Philippe Schreyers, vous terminez l'ouvrage non pas par la flûte enchantée mais par la clémence de Titus et vous introduisez le personnage de la clarinette pratiquement phallique sous votre plume. Vous parlez à propos de Vitellia d'une incroyable fugue pour instrument à bouche et humanoïde associé, on est presque chez Catherine Breillat, là.
Je crois que la dérive pornographique ou pornocratique ou industrialisée, d'ailleurs plus ou moins, est la même chose que la pudibonderie. Je crois que, même dans la situation où nous sommes, n'est-ce pas, la puritaine Amérique bombarde la puritaine région d'Afghanistan.
On va commencer quand même avec le soutien-gorge japonais qui chante.
Oui, mais ça c'est pour me moquer de la marchandise qui est devenue Mozart, oui.
Et vous finissez avec ce rapport assez trouble entre Vitellia et le corps de Basset.
Mais il y a dans Mozart toutes les... C'est pour ça qu'on parlait de Freud pour commencer. Freud aurait pu trouver dans comme exemple de sublimation absolument réussie, pas incestueuse, tout ce qu'il faut dans Mozart entre hommes et femmes, les rapports entre les sexes, la guerre des sexes menée d'une certaine façon, qui n'est pas catastrophique, parce que Mozart termine toujours sur une déclaration de pardon, de clémence, après avoir fait bouger tous ces personnages pour montrer qu'ils
se trompent. C'est peut-être le petit garçon qui voulait se faire aimer, qui voulait se faire embrasser par la reine.
Il a été très aimé, mais ensuite il faut imposer, n'est-ce pas, son dévoilement des apparences. Tout le monde se trompe, les hommes sont des nigauds, les femmes croient quelque chose qu'elles abandonnent dans la minute d'après, il n'y a que des situations. Il n'y a pas de vérité. Voilà. Donc ce sont des opéras initiatiques, évidemment, qui reposent, en effet, fondamentalement sur le fait qu'on va débarrasser les deux sexes réciproquement de leurs illusions au sujet de l'autre. Et ça, c'est magnifique, et ça n'a pas été dépassé, parce que ça continue dans la confusion la plus totale.
Les opéras de jeunesse vous intéressent pas trop?
Si, mais écoutez, je peux pas... il fallait faire alors un livre de 10 000 pages. M'intéresse beaucoup, mais je me suis un peu concentré quand même sur ce que veulent dire les derniers grands opéras, c'est-à-dire Idoménée, bon... Encore de la mythologie. L'enlèvement au sérail. Alors là, commencent les choses sérieuses. L'enlèvement au sérail, diffusé aujourd'hui sur la chaîne Al Jazeera, ferait, à mon avis, un tabac aux États-Unis.
Oui.
et puis, évidemment, les noces de Figaro, ça. Vengeance de Mozart par rapport aux Français. Ah oui, vous voulez être subversif avec Beaumarchais, mais moi je vais vous faire la musique de cette pièce, mais en italien. Voilà. Ensuite, Don Giovanni, évidemment, extraordinaire chef-d'œuvre, où commence la répression contre Mozart. Tout le monde a été très choqué par Don Giovanni à Vienne, et c'était à Prague que ça marchait, mais la société viennoise l'a très mal pris. Così fan tutte, chef-d'œuvre. La flûte, évidemment, chef-d'œuvre. La clémence, trop négligée, aussi chef-d'œuvre. Et comment a-t-il pu faire tout ça en de si peu de temps? Voilà les questions que je me pose, en essayant d'analyser comment la musique marche avec les mots, comment le livret de Da Ponte revu et sans cesse travaillé par Mozart, note par note, comment tout ça fait une fleur éblouissante, d'ailleurs, sans précédent et sans suite.
Marche au sens propre, puisque Mozart, on le sait, n'était jamais en repos.
Tout le temps, oui. C'est ça qui est tout aussi extraordinaire chez lui, c'est-à-dire la composition incessante, le fait de ne pas avoir besoin a priori de l'instrument pour composer. La musique, c'est ça qui est étonnant, c'est qu'elle peut être silencieuse. Et il y a une belle phrase de Heidegger que je cite à propos de Mozart, « Entendre, c'est voir ». Donc, Mozart, dans un propos étonnant, dit qu'il arrive à voir tout à la fois. Entendre et à voir tout à la fois. Il entend et il voit ce qu'il est en train de composer mélodiquement, harmoniquement, contrapuntiquement, comme un beau tableau, dit-il, ou une belle sculpture. Donc c'est le temps qui passe dans l'espace. Ça c'est très étonnant, parce que ça veut dire quoi? Écoutez, entendre tout à la fois, toutes les voix à la fois, tous les caractères à la fois, c'est un grand dramaturge. Hein, étonnant dramaturge, le plus grand depuis Shakespeare, je veux dire, mais bon, avec la musique. Donc, très grand dramaturge, c'est passionnant, les opéras de Mozart, la façon dont tout s'imbrique, dont les petites surprises arrivent, le comique se glisse dans le tragique, etc. Bon. Tout à la fois, c'est tous les caractères, toutes les voix, hommes, femmes, Différence chez les femmes, différence chez les hommes, c'est déjà beaucoup. Puis aussi tous les instruments d'orchestre. Il faut écouter les cordes, les vents, les cuivres, etc. Donc là, alors il faut se concentrer sur la musique de chambre pour voir comment il arrive à jouer de tous les timbres merveilleusement, quoi, dans les quintettes notamment.
Ah ben oui, mais alors là, je ne suis pas le premier à relever, mais vous parlez des quintettes avec piano.
Oui, mais c'est une erreur que je me pardonne, parce que si je peux dire, ben elle sera corrigée. C'est-à-dire qu'en effet, quand on écoute, c'est extraordinaire, il y en a deux, là, en sol mineur et en bémol majeur, on a l'impression, et il y a quelqu'un qui m'a écrit à ce sujet, il m'a dit, oui, erreur, bien sûr, mais oui, pour la corriger. Mais vous avez compris, c'est un musicien qui m'a dit ça, vous avez compris que le piano vaut pour deux instruments, des fois la main gauche et la main droite. Et c'est vrai qu'il y a une recherche de quintette.
Il y aura un deuxième alto glissé comme ça, subliminal,
voilà.
Alors.
Voilà, en quelque sorte. Il va vers le quintette, Mozart, parce que le quatuor est pris par Haydn, vous savez, cette amitié incroyable entre ces deux hommes, la plus belle qui soit au monde. Comment deux créateurs peuvent-ils s'admirer sans se jalouser, sans s'envier?
Donc, ça vous... Fraternité, paternité,
oui,
amitié,
c'est ça,
en fait.
c'est étonnant. Et donc, à l'histoire avec son père, son géniteur, mais le vrai père de Mozart, c'est Haydn, bien sûr. Donc, là, c'est l'anecdote célèbre, non seulement la dédicace magnifique de Mozart à Haydn pour ses quatuors, mais l'interview, si on peut dire, de Haydn à Londres en 1792, donc après la mort de Mozart, où on demanda à Haydn pourquoi il n'a pas écrit le quintet. Il dit non, les quintettes, c'est Mozart, enfin, mieux on ne peut pas faire. Et en effet, en ajoutant quelque chose, Mozart fait enfin, le quintet avec clarinette, par exemple, bon, c'est vraiment un chef-d'œuvre magnifique. Il fait entendre quelque chose, il entre dans quelque chose que Haydn n'avait pas pu atteindre. Voilà. Donc c'est ce problème de quatuor quintet, là, oui. Petite erreur, mais erreur, Félix culpa, heureuse faute.
Vous en tirez bien, merci. Thank you. Le rondo final du quatuor avec piano du premier de Mozart en sol mineur, Köchel 478, des membres du quatuor Amadeus et au piano Clifford Curzon. Et donc pour illustrer l'apparition de ce mystérieux Mozart chez Plomb de Philippe Solers. Voilà une figure de la passion, Frédéric Dassas. Bonjour.
La figure que celle de Mozart. Celle de Mozart ou celle de Philippe Solers?
Ah ben, il y a une figure de la passion de Solers pour Mozart, ça
oui,
c'est évident.
Oui, très juste.
Figure de la passion, c'est donc le titre de cette exposition au Musée de la Musique que vous